Frères et sœurs en Christ, bonjour.
Bonjour.
Comme l'a dit Jean-Marc, ce matin, j'ai la responsabilité de partager avec vous la parole de Dieu. Et je suis très reconnaissant à Jean-Marc, mais aussi à son équipe qui ont bien voulu me choisir pour pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Très rapidement, je vous invite à tourner votre Bible avec moi dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17. Nous allons lire tous les versets. Le chapitre 17 comporte 26 versets. Et je propose à ce que nous puissions répartir les 26 versets entre 5 personnes. La dernière personne pourra lire 6 versets. Finir la lecture. Et je préfère ouvrir la lecture avec les 5 premiers versets, mais je vous informe que je vais le lire dans la traduction semaine. Si vous êtes avec moi, je le lis au nom de Jésus. Il est écrit, après avoir ainsi prié, Jésus, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, mon Père, l'heure est venue, fais éclater ta gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui tu as donné. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, révèle-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Quelqu'un peut continuer la lecture avec le verset 6.
Je te fais connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Mais maintenant, tu sais que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai compris. Je ne vis pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en nous.
Quelqu'un d'autre?
Je suis
La lecture, c'est la prière la plus lente, mais la plus grande enregistrée par l'évangéliste Jean parmi tous les évangélistes dans le Nouveau Testament. Nous y observons le cumul des préoccupations du Seigneur Jésus-Christ au sujet de ses disciples, mais aussi de ses disciples à venir. Jésus-Christ, Dieu devenu homme parmi les hommes sur la terre, il a fait de la prière sa respiration quotidienne. Il priait sans relâche, accompagné de ses disciples, seul et exhortait ses disciples à veiller, mais aussi à prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Dès lors, comment comprendre que le Fils de Dieu, vivant, étant aussi Dieu, puisse prier le Dieu le Père? Il priait pour nous parce qu'il savait que ceux qui ont cru ou qui croiront en lui seront toujours confrontés à une aspirale de combat spirituel. Ils seront confrontés à l'opposition, à l'hostilité, au mensonge de ce monde, à la diffamation et à toutes sortes d'accusations. Ils seront persécutés, trahis, au point d'être conduits injustement devant la justice de ce monde. Ils ont donc besoin de la vie de Jésus, de ses paroles, de sa protection, de sa justice, de ses soins, de sa joie, de son amour, mais aussi de ses prières. Dans le texte que nous avons lu, Jésus nous donne à nous tous un exemple de la bonne façon dont nous devons tous prier pour toujours. D'abord, au verset 1, Jésus prie pour que la gloire de Dieu soit restaurée. Je cite, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils aussi te glorifie. » Deuxièmement, au verset 6, mais aussi dans le verset 9, Jésus prie son Père pour ses disciples. Je cite, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. » Troisièmement, au verset 15, mais aussi au verset 17, Jésus prie pour la sécurité de ses disciples afin qu'ils soient sanctifiés. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. De là, Jésus multiplie sa prière pour l'unité des chrétiens à travers le monde entier. Je cite, Père, garde-les en ton nom, ceux que tu m'avais donnés, afin qu'ils soient un. Quatrièmement, au verset 20 et au verset 21, Jésus prie dans les termes suivants. Ce n'est pas seulement pour ses disciples qu'il prie, mais encore pour ceux qui croiront en lui, afin que tout soit un, comme son Père est en lui, et comme lui avec son Père, afin que le disciple aussi soit un en lui, afin que son Père, ou que le monde croit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Cinquièmement, dans une déclaration particulière au verset 22 et au verset 24, Jésus prie pour montrer combien il partage sa gloire à ses disciples. Voilà les cinq points que j'aimerais très rapidement regarder avec nous. Je voudrais commencer par le thème de la gloire. Jésus dit, Père, je leur ai donné. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. Un Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Le mot gloire ici peut être source de confusion. Jésus dit, glorifie ton Fils. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai été glorifié en eux et donc ils verront ma gloire. Le mot gloire ici signifie donner du poids ou honorer quelqu'un. Donner la gloire ou partager sa gloire consiste à reconnaître l'importance de lui. Et lorsque nous glorifions quelqu'un, nous respectons la dignité de la personne, sa valeur, son importance et son statut. En ce qui concerne la gloire de Dieu, cela signifie de reconnaître que Dieu est créateur du ciel et de la terre avec tout ce qui s'y trouve. Il est souverain dans le ciel et sur la terre. Jésus prie ici pour qu'il soit glorifié par son Père, selon le verset 1. Et il voulait aussi que les gens qui étaient avec lui, avec qui il priait, comprennent et reconnaissent l'importance de Dieu dans leur vie. Le seul but de notre vie sur la terre, c'est de vivre de telle manière que Dieu soit connu, que les gens voient en nous son importance. De même, Jésus prie pour que nous recevions sa gloire, selon le verset 22. Que nous soyons reconnus et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Qui a déjà vu la gloire de Dieu? C'est cela la question que je pose. La gloire de Dieu ou la gloire que Jésus nous donne, il ne nous donne pas à cause de ce que nous sommes, mais il nous donne sa gloire à cause de ce que nous sommes en Jésus-Christ. À cause de qui nous sommes, c'est-à-dire que de notre identité chrétienne. Oui, en tant que croyants en Christ, nous n'avons pas à mélanger la gloire que Jésus donne. Ce n'est pas la gloire de ce monde pour être connu par les hommes ou pour avoir la célébrité de ce monde, mais c'est pour que nous possédions, c'est pour que les gens de ce monde découvrent en nous la gloire de Dieu et afin qu'ils donnent leur vie en Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous. Et son être réside en nous, dans notre être, pour qu'à travers de nous, le monde croit en Dieu. C'est la première chose que je voulais partager avec nous. La deuxième chose que j'ai fait ressortir dans ce texte que nous avons suivi tout à l'heure, la lecture, que je voudrais préciser avec nous, c'est que Jésus prie pour que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, qui d'ailleurs est le fondement de notre vie chrétienne. La vie éternelle est le don gratuit de Dieu. C'est le don gratuit que Dieu donne à ceux qui croient en son Fils. Fondamentalement, la vie éternelle, nous la recevons sur la base de notre foi. Et la foi, personne ne peut ni l'acheter, ni la voir en force, ni la corrompre. La foi, c'est un don gratuit de Dieu. Et lorsque nous commençons par décrire la vie éternelle, nous possédons d'abord en termes, nous la comprenons d'abord en termes d'une foi dynamique, d'une foi vivante, mais aussi d'une foi active. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Personne ne vient au Père que par moi. Et dans le verset 3 de Jean 17 que nous avons lu, Jésus prie son Père en disant, ceci est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent. Le verbe connaître ici signifie que notre connaissance de Dieu n'est pas une simple connaissance des faits ou connaissance théologique immobile ou connaissance biblique insensible aux affaires de Dieu. Mais ça doit être une connaissance qui se renouvelle de façon continue, mais qui se poursuit non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur. Notre connaissance de Dieu est donc une connaissance qui se réfère à une foi personnelle et intime avec le Dieu. C'est-à-dire, c'est une connaissance qui se développe de façon progressive. La vie éternelle dont il est question ici, on ne la trouve pas en ayant simplement des connaissances sur Dieu, mais en ayant une foi personnelle, authentique et très intime avec Dieu. Seule cette vie éternelle de Dieu peut produire en nous le désir de voir le nom de Dieu être sanctifié dans notre cœur et dans notre vie, de voir son règne venir en ce monde ainsi que dans notre cœur et dans notre vie. La vie éternelle dont il est question ici, c'est de voir le règne de Dieu venir en ce monde ainsi que dans notre cœur, même aussi dans notre vie et dans notre famille. De voir la volonté de Dieu être faite sur cette terre comme au ciel. De voir le besoin matériel, émotionnel et spirituel prendre la seconde place dans notre vie. De ce point de vue, la vie éternelle dont il est question comporte deux dimensions. D'abord, la vie éternelle est instantanée. La vie éternelle, elle est maintenant. Notons qu'au verset 3, Jésus dit clairement, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'idée de la vie éternelle ici, elle ne fait pas uniquement référence à un mouvement allant au paradis. Parce que ce n'est pas au ciel que nous allons croire ou connaître Dieu. Croire en Dieu, c'est d'abord une réalité présente ici-bas. La vie éternelle exige donc que nous exprimions notre foi ici et maintenant. De même, la vie éternelle que Jésus donne implique que ce que Dieu a commencé ne s'arrêtera jamais. Même si nous sommes confrontés à des maux, à une maladie dans la vie et à la mort, cette vie éternelle ne nous est jamais portée. La question ultime ici à poser, c'est avons-nous la vie éternelle? Êtes-nous assurés de la vie éternelle? Notre plus grand besoin n'est pas d'avoir une vie morale merveilleuse comme une vie monastique ou simplement comme une vie dont on a l'extérieur qui exprime son aspect extérieur pour impressionner les gens. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous ayons l'assurance de la vie éternelle. Ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ayons l'assurance de la vie éternelle par Jésus-Christ. Rappelons-nous de Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, c'est celui-là qui entrera dans le royaume de mon Père. C'est celui-là qui a la vie éternelle. La troisième chose que je voulais partager avec nous, à la lumière de ce texte que nous avons lu, Jésus prie pour que nous soyons protégés. Voici ce qu'il dit, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Verset 1, verset 11 et verset 12. L'idée de garder ici est comme un berger qui observe constamment ses moutons. Ses yeux sont zoomés sur eux. Jésus a donc prié pour que Dieu nous garde de ceux qui cherchent à nous pervertir et à nous détruire physiquement ou à détruire notre témoignage. Jésus prie ici pour que nous, ses disciples, nous qui sommes ses enfants, nous puissions être protégés des valeurs, des mœurs, des normes, des idées et des principes du monde qui s'opposent à Dieu. Ce monde est un endroit effrayant. Ce monde est différent de Dieu. Dans ce monde, les disciples pourraient s'attendre à la haine du monde. Nous qui sommes ses enfants, nous pouvons évidemment nous attendre à la haine des gens de ce monde. Les valeurs, les désirs, les aspirations du monde peuvent entacher notre appartenance à Dieu. Mais malgré cette réalité du combat spirituel, jamais Jésus n'a pas prié pour que Dieu nous retire de ce monde. Il n'a jamais prié que nous serions sortis de ce monde en menant une vie à part, systématiquement séparée et exclue du monde réel. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre notre foi dans l'agitation de ce monde. La prière de Jésus sur ce point est claire. Je cite, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Ça, c'est la prière de Jésus-Christ. Il s'adresse à son Père en disant, Père, je ne suis plus dans le monde, mais mes disciples, ceux que tu m'as donnés, ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Verset 1. Jésus continue en disant, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 15. Par cette prière, Jésus nous enseigne que c'est Dieu qui garde ses ouvriers. C'est Dieu qui garde ses serviteurs. C'est Dieu qui garde ses enfants dans ce monde plein d'embûches. Nos dispositions de sécurité, évidemment, de nous protéger de ce monde sont bien limitées, sont inefficaces, mais la vraie protection pour Dieu, nous la trouvons en Jésus-Christ. La vraie sécurité, la vraie protection, nous la trouvons seulement dans le Seigneur. La quatrième chose que je voudrais dire, que j'ai dégagée dans ce texte et que je voudrais nous partager, c'est que Jésus a prié pour que vous et moi, nous soyons un dans le Seigneur. L'unité que Dieu désire pour le corps du Christ repose sur une unité qui existe déjà dans le ciel entre les trois personnes qui composent la Trinité. Je veux parler de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est un exemple pour nous les chrétiens, un exemple fort de l'unité. Jésus ne prend pas donc notre unité à la légère. Cela ne préoccupe pas beaucoup. Il devrait être pour nous aussi une vraie préoccupation, l'unité des chrétiens. Jésus prie pour que notre unité soit réelle, une unité authentique, une unité vraie, mais une unité sincère. En d'autres termes, pas une fausse ou une prétentieuse unité. Mais avant de prier pour qu'il y ait unité des chrétiens, unité entre nous, nous devons commencer par prier pour l'unité dans notre propre famille. Tout commence là. Parce que si nous ne pouvons pas commencer par unir notre propre famille, c'est pas la famille de Dieu que nous pouvons commencer par unir. L'unité va commencer dans notre famille, dans notre environnement, avec nous, avec nos voisins, avec nous. Tout commence là et ça va avoir une certaine incidence dans la famille de Dieu. Deux fois, Jésus donne la raison pour laquelle nous devons nous unir en tant que chrétiens. Verset 1 et verset 23. Afin que le monde croit que Jésus est véritablement l'envoyé de Dieu. Voilà l'importance pour nous d'être un. Si nous sommes un, le monde va rapidement croire que effectivement nous sommes enfants de Dieu. Jésus ne s'arrête pas là. Jésus va plus loin en disant, afin que le monde sache que lui, Jésus est l'envoyé de Dieu. La réputation de Dieu est ici en jeu à cause de notre unité. Lorsque les chrétiens restent ensemble dans l'unité, c'est une façon de témoigner au monde la vérité de l'Évangile. Une église unifiée va gagner les gens pour Christ et sauver des nations. Comment le monde peut-il croire? Comment le monde peut-il croire à l'Évangile? Comment le monde peut-il accepter notre témoignage si les chrétiens se battent entre eux? Si les chrétiens sont divisés? Comment le monde peut-il accepter notre Évangile si déjà à l'intérieur de nous, il y a la division? Impossible. Comment le monde peut-il accepter l'Évangile si nous ne sommes pas un? Quand les chrétiens éclatent sur des questions futiles et non essentielles, les gens de ce monde ont des raisons de douter de la validité de l'Évangile. Ce fut la stratégie maîtresse de Satan. L'unité est la preuve pour le monde que notre foi est réelle. Ce matin, Dieu nous distingue pour notre unité. Il nous envoie pour proclamer le message d'unité. Dieu veut que nous devenions réellement ses mains dans ce monde blessant. La voix de Dieu auprès des personnes désespérées pour l'espoir. Les pieds de Dieu pour apporter les bonnes nouvelles. Si donc nous voulons être la réponse à la prière de Jésus, nous devons commencer par prier pour les hommes de ce monde. Commençons par prier pour l'unité dans ce monde, en annonçant l'évangile de l'unité par toutes les occasions qui se présentent en nous. Les gens ont besoin de démonstrations d'unité et pas seulement de communication sur l'unité. Lorsque la véritable unité est démontrée parmi les chrétiens, les gens de ce monde vont rapidement changer et vont accepter Jésus-Christ dans leur vie. Le message de l'unité. Le message de l'unité est très important pour nous en tant que chrétiens. Mais ce message est une stratégie très importante pour Dieu à pouvoir gagner beaucoup de gens en Christ. Cinquième chose que je voudrais dire à la lumière de ce texte pour conclure, c'est que nous trouvons dans la prière de Jésus-Christ un mot important, un mot fondamental qui nous libère de tous les fardeaux, des douleurs de la vie et nous conduit à la perfection. Ce mot, c'est la parole de Dieu. Au verset 8, Jésus dit, je cite, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Et ils les ont reçues. Verset 14, Jésus continue en disant, en insistant sur la parole, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu n'est pas un code secret ou un message caché. Tout est dans la Bible et c'est accessible à quiconque voudra le lire. Et la parole de Dieu nous est donnée par Jésus-Christ. Dans cette parole, nous avons des étapes à suivre, des actions chrétiennes à mener et la vie à vivre sur la terre. En ce qui nous concerne personnellement, en tant que chrétien, nous ne devons pas être simplement des auditeurs de la parole. Cela ne suffit pas. Nous ne devons pas aussi simplement mémoriser ces paroles. Cela ne va pas suffire. Ces versets, les paroles que nous méditons, que nous essayons de mémoriser, cela doit intégrer dans notre cœur. C'est pour dire que nous sommes dans le temps de la proclamation de l'Évangile. Nous sommes dans le temps de la proclamation de la parole de Dieu. Mais la parole proclamée, nous devons premièrement la vivre. Nous devons la vivre avant de la proclamer. Nous devons la vivre avant de la partager aux autres. Et à cause de cela, à cause de cette parole, Jésus a été clair que le monde va nous haïr. les points que je viens de nous développer se résument clairement dans les mots que Jésus a utilisés pour ouvrir sa prière. Je cite, l'heure est venue. L'heure est venue. Tout au long de l'évangile de Jean, nous voyons Jésus se diriger vers cette heure qui avait été prévue dès la fondation du monde dans le plan de Dieu. L'heure de la crise et de la trahison, quand il affronte volontairement et personnellement les puissances des ténèbres. Ainsi, dans sa crucifixion et par le biais de son agonie, de son sang, des douleurs et de la solitude, il demande à son Père à être glorifié. Ce n'est pas une prière égoïste, puisqu'il agit aussitôt que par le biais de sa mort, il va glorifier son Père. Cette heure est évidemment bien là. Cette heure est au-dedans de nous. Nous vivons dans cette heure. Nous marchons par la foi dans cette heure. Et dans cette heure, Dieu nous appelle à prêcher son évangile. Pour nous, cette heure passe aujourd'hui par la place centrale que nous accordons à Dieu dans notre vie, dans notre connaissance juste de Dieu, dans notre foi authentique, dans notre authentique unité pour que le monde croit en Dieu, pour que le monde croit à notre sincère amour pour le prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont les 7 points que j'ai eu à cœur de nous partager? Ce message d'unité, ce message de la connaissance, de la parfaite connaissance de la parole de Dieu, ce message qui concerne une foi sincère, ce message qui concerne de nous respecter les uns les autres, car c'est en cela que le monde peut croire que véritablement nous croyons en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole pour nous.